Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes dans votre émission qui parle eh bien, de notre vie quotidienne, de votre vie quotidienne. C'est tous les matins en direct de 11h à midi. Et aujourd'hui, on met à l'honneur les enfants hypersensibles, car ce n'est pas une maladie de l'être. Et on fait le point avec Stéphanie Couturier. Je rappelle que vous êtes psychomotricienne, sophrologue et autrice du livre « Mon enfant hérisson » paru aux éditions Marabout. Stéphanie, on va tenter de comprendre ce qui rend certains enfants plus émotifs que d'autres. Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'il y a une part de génétique ou c'est une idée?
Non, c'est inné. C'est un trait de tempérament qui est inné, donc ce n'est pas un trouble. Mm-hmm. Et en effet, on retrouve dans la famille très souvent plusieurs hypersensibles, soit dans la fratrie, évidemment avec les parents, il y a au moins, enfin souvent, un des deux parents qui est hypersensible.
D'accord, donc si on l'est soi-même, on a quand même de fortes chances d'engendrer un petit enfant hérisson.
Tout à fait, d'accord. Parmi la fratrie.
Et est-ce que l'environnement ou l'éducation que l'on donne à son enfant peut aussi jouer sur après le niveau d'hypersensibilité? Est-ce qu'on a une idée s'il y a des facteurs qui rendent les enfants encore plus hautement sensibles ou pas?
Non, ça va jouer, l'environnement va jouer sur le bien-être de l'enfant hypersensible. Ça, c'est très très clair. Après, l'environnement ne va pas provoquer une hypersensibilité.
D'accord.
Et dès les premiers mois de la vie, ça peut se jouer. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être lié à quelque chose passé durant la petite enfance, un environnement stressant, non? Ou l'alcool ou...
Alors non, enfin... L'environnement
dans la famille, hein,
oui,
c'est
oui,
ça,
oui. Ouais. L'environnement ne va pas produire l'hypersensibilité, mais en effet, on va voir plus facilement, on va voir les répercussions en fait de l'environnement sur l'hypersensibilité de l'enfant, avec beaucoup plus de pleurs, avec un stress qui va être beaucoup plus important, avec des difficultés à l'école, beaucoup plus importantes également, dues au stress de l'environnement familial.
Donc c'est quand même bien de le savoir, effectivement, pour mieux accompagner et mieux s'y prendre, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas formé à ça quand on devient parent. Est-ce qu'on peut reconnaître déjà, je ne sais pas, un tout petit bébé qui va être hypersensible, si jeune? Qu'est-ce qu'on détecte?
Oui, oui.
C'est quoi les signes?
Les signes, il y en a deux qui sont importants, c'est les pleurs. Il y a des enfants hypersensibles qui pleurent beaucoup, beaucoup et beaucoup plus que la moyenne.
Moi, j'avoue, je ne trouve pas ça un très bon critère parce que moi, j'ai l'impression d'avoir... J'ai eu deux enfants, je ne crois pas qu'ils le soient, mais ils pleuraient beaucoup. Enfin, un bébé, ça pleure beaucoup.
Non, il y a des enfants qui pleurent vraiment beaucoup plus, qui pleurent beaucoup pour décharger et beaucoup plus que la moyenne. Mm-hmm. Mais ce n'est pas du tout le seul en fait, indice parce qu'il y a des enfants qui ne pleurent pas. Spécialement, des bébés qui vont être même plutôt faciles, mais qui vont... Enfin, regarder l'environnement, qui vont être extrêmement observateurs.
Alors celui-ci de signe, je trouve qu'il n'est pas très facile à repérer.
Ah si, si, il se repère. Ce sont des enfants qui font même un petit peu plus grand, entre guillemets, ils ont quelques mois, mais ils vont être un peu étonnants parce qu'ils regardent tout le temps, ils fixent les gens, ils regardent l'environnement. Mmh. C'est assez particulier, mais c'est très présent.
Et il y a un autre signe chez les bébés, vous disiez deux signes, donc c'est ces deux-là.
C'est,
deux-là.
C'est ça,
d'accord.
Oui.
Okay.
Et les enfants passent, donc on le sait, la plupart de leur temps à l'école, c'est pourtant pas le meilleur endroit, vous pour un enfant hypersensible, pourquoi?
Non, parce que c'est un environnement qui est très bruyant, où on ne respecte évidemment pas spécialement le rythme propre de l'enfant. C'est un rythme qui est normal, qui est général, qui est pour tout un groupe. Donc, ça ne va pas être adapté forcément pour l'enfant hypersensible.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On va voir la maîtresse, on lui explique. Qu'est-ce que vous préconisez?
Tout dépend de comment ça se passe avec son enfant. Si on a un enfant qui ne va pas bien à l'école, alors oui, on se déplace, on va voir le professeur, on essaie d'expliquer comment fonctionne son enfant. Donc, pour ça, il faut bien l'observer, il faut essayer de comprendre comment il réagit. Pour essayer d'anticiper un petit peu et puis de le protéger, d'en parler un peu. Mmh. Mais si ça se passe bien, il n'y a pas de raison particulière d'aller alerter en disant « mon enfant... »
Alors on y va surtout si ça se passe mal, effectivement. Et si ça passe mal et qu'on trouve, pour l'instant je suis dans le monde des bisounours, parce que c'est pas toujours le cas, mais si la maîtresse est à l'écoute ou le maître, qu'est-ce qu'ils mettent en place les professeurs pour ces enfants-là? Parce qu'ils vont pas pouvoir éteindre la lumière, ils vont pas pouvoir demander à toute la classe de se taire. Qu'est-ce qui, en tout cas en termes de petite adaptation, peut aider en classe?
D'avoir des petits moments de calme. Ça peut être de sortir de la classe à certains moments. Pour certains, ça va être de se dépenser un petit peu parce que rester à la même place, ça peut être difficile. Donc, ça va être de distribuer des copies, par exemple, des cahiers. Ça peut être de... Voilà, bon, j'ai déjà dit les temps calmes, mais ça peut être, quand je disais de sortir, ça peut être vraiment pour aller à la bibliothèque, avoir des petits moments à soi. Et puis, alors pour certains, par rapport au bruit, ça peut être de porter un casque anti-bruit en classe.
Pour mais du coup, ils n'entendent plus la maîtresse.
Si, si on entend.
Au moment où on travaille.
Non, non, on entend quand même avec un casque anti-bruit.
Vous dites que ces enfants hypersensibles ont une exigence et recherchent bien souvent la perfection. Ce sont des enfants qui, du coup, vont peut-être parfois préférer ne rien faire plutôt que de mal faire.
Oui, ça, c'est assez classique. Ce sont des enfants qui sont très exigeants envers eux-mêmes, envers l'environnement aussi, hein, mais envers eux-mêmes en tout premier lieu. Et préfèrent, comme ils analysent tout, ils ont généralement une conscience très aiguë de la production des choses. C'est pas un enfant à qui un qui fait un gribouillage à qui on peut dire oh, c'est magnifique et qui va
il sait qu'il a fait
un gribouillage et que c'est pas top. Il aimerait tout de suite faire un joli bonhomme, si possible de profil, mais il sait pas comment faire. Donc c'est difficile parce qu'il y a cet écart entre la production que peut faire l'enfant à son âge avec ses capacités corporelles
et puis
ses exigences et sa projection, cette façon justement d'observer particulièrement les choses et d'avoir conscience d'un rendu particulier.
Vous dites dans le livre qu'il faut aussi ménager le quotidien des enfants hypersensibles parce que ce seraient des enfants qui ont une fatigabilité plus importante que les autres. Expliquez-nous.
Ce sont des enfants qui perçoivent tellement de stimuli, en fait, qui perçoivent tellement de choses de leur environnement, qui ressentent, enfin, qui sont débordés par leurs émotions la plupart du temps, qui peuvent être débordés par leurs sens. On l'a vu un petit peu, mais ça peut être justement la lumière, les odeurs, enfin, les sens en éveil de façon très aiguë, qui vont être débordés par toutes ces sensations. Donc, en effet, ils vont saturer. Et en saturant, soit il y a des crises, il peut y avoir des crises de larmes, des crises de colère, et puis il peut y avoir aussi très souvent une énorme fatigue qui va être cachée. Donc là, c'est à nous justement d'être très observateurs et de les accompagner pour que l'enfant puisse avoir des petits moments de repos.
C'est-à-dire des siestes, il faut les coucher plus tôt que les autres par exemple. C'est quoi vos conseils justement anti-fatigue à destination des parents d'enfants hypersensibles?
C'est temps calme dans la journée. Réussir vraiment à mettre un ou deux temps calme, ça peut être juste la lecture d'un album ensemble, ça peut être d'écouter une musique ou deux, ça peut être juste d'écouter de la relaxation, un texte de relaxation ou de s'allonger, d'écouter l'environnement, voilà des petites choses comme ça et surtout évidemment veiller au sommeil.
Et vous conseillez quand même de les mettre au sport ces enfants-là,
oui.
Pourquoi c'est important de les faire bouger?
Parce qu'il faut trouver un bon équilibre, ce sont des enfants qui à la fois ont vraiment besoin de sommeil, plus que les autres enfants, tous les enfants ont besoin de sommeil, tout le monde a besoin de sommeil, mais là c'est encore plus important.
Il faut veiller aux leurs, en tout cas, plus que les autres.
Voilà. Et puis, c'est très important aussi de leur apprendre à se défouler. Parce que comme ils emmagasinent beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, il faut pouvoir se défouler.
Un sport parfait pour les hypersensibles, vous en conseillez un en particulier?
La natation est quand même pas mal. Ouais. Après, la natation pour un hypersensible, ça dépend de l'enfant. Il faut que...
L'eau,
le froid, c'est pas toujours évident.
Et sport collectif, c'est possible pour un hypersensible ou c'est pas conseillé?
C'est pareil. Tout va dépendre de l'expression de l'enfant, mais on a plutôt tendance à penser que les sports individuels sont plus adaptés.
Eh bien, merci beaucoup. On reste ensemble, hein, on continue. On parle ce matin des enfants hypersensibles. Ces enfants sont en fait des récepteurs hors normes, tout en puissance et en finesse, de l'environnement qui les entoure. Et donc, ce matin sur Europe 1, on vous donne les clés pour mieux les comprendre et les accompagner.
Bien fait pour vous sur Europe 1.